Vas-y.
Viens. Je veux de gens, moi. Voilà. Voilà, c'est vous. Oh, merde.
Ici, Deligny. Cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un l'apprend?
Enquête d'un cinéma indépendant, sauvage. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Galère 88.4. On est le 2 janvier, une nouvelle année, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, l'émission tournera autour du film Le Moindre Geste de Fernand Deligny, José Manenti, Jean-Pierre Daniel. Et nous avons Jean-Pierre Daniel, le monteur ou le mise en image et en son, je crois que c'est écrit sur le générique comme ça, qui sera avec nous durant toute l'émission, accompagné de David et Fabrice. On commence.
Donc, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, la mise en film des images et des sons, dans le générique du film, il y a 68-70. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré ces images et ces sons?
Oui, en effet, je suis dans cette aventure-là, c'est un relais qui s'est passé. L'aventure du Moindre Geste commence en 1962, 1963, les dates ne sont pas extrêmement précises, du côté des Cévennes, du côté d'Anduze. Et c'est d'abord Fernand Deligny et José Manenti qui travaillaient ensemble, qui vivaient ensemble avec... deux, trois enfants autour d'eux, dont Yves, le personnage principal du film, qui se mettent à raconter une histoire avec ce garçon, Yves, dans l'aventure de Deligny, peut-être qu'on y reviendra, qui était donc le fait de vouloir raconter une histoire avec Yves, représenter un geste qui était aussi un vrai geste de vie, un vrai geste de pensée. Et ce film se développe, se fait, se crée, se construit, se tourne, longuement, et autour de 1965-66, s'arrête. Tournée, ils arrivent au bout du tournage, au bout des enregistrements qu'ils avaient faits et au bout de leurs moyens financiers. Ils s'arrêtent et ils se réfugient dans un lieu très particulier qui est une institution psychiatrique qui s'appelle La Borde, du côté d'Angers, et ou de Tours, ou de Blois, je crois. Et là, il se retrouve accueilli par Jean Houry dans cette institution. Et le film s'arrête. Et il s'enferme dans des malles qui ne se rouvriront que en fin 68, l'automne 68. Cette malle est arrivée par le biais d'un personnage qui va jouer un rôle important, qui s'appelle Jacques Allaire, qui était un éducateur spécialisé, qui vivait pas loin, non loin de la maison de Deligny et qui avait commencé à comprendre et qui s'était intéressé à tout le travail qui se développait là. C'était du côté, encore une fois, d'Anduze, mais plutôt du côté de Saint-Polyte-du-Fort, à ce moment-là, de la Gragnès. Et là, Jacques Allaire, lui, pour des raisons personnelles, décide de venir à Marseille pour accompagner sa femme qui va changer, qui va suivre des études à Marseille. Et Deligny lui dit, écoute, il y a la malle, là, avec toutes les bobines qui ont été tournées, tous les sons qu'on a enregistrés. Apparemment, c'est impossible d'en faire quelque chose. On a plus ou moins tenté. On était en contact avec François Truffaut, qui nous a dit que c'était immontable, qu'il fallait être fou pour essayer de monter ça. Alors, si tu trouves un fou, ben, fais-le, quoi. Et puis voilà, ben, J'ai été ce fou. J'ai eu la chance d'être ce fou, rencontré à la limite pour des raisons professionnelles. Moi, j'étais ici à Marseille, conseiller technique du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les problèmes de cinéma. Donc, j'étais vraiment dans l'aventure de l'éducation populaire. Et Jacques aussi connaissait bien tous ces milieux-là. Et il a pensé que peut-être on pouvait arriver dans ce contexte-là, donc dans ce contexte à la fois de penser que ce qui s'était joué en 62 avec Deligny pouvait se retrouver en cohérence avec un travail de l'éducation populaire de cette époque-là, et puis en termes économiques aussi, parce que quelque part, si c'est un fonctionnaire qui le monte, c'est bien, quoi. Il n'y a pas besoin de chercher un budget pour le faire. Et ça s'est fait comme ça. C'est donc comme ça que moi, je me suis retrouvé à ouvrir la malle et à découvrir les images. Et là, c'est une aventure qui a commencé, qui dépasse largement l'idée que je me mettais à le faire, le film, à le construire.
Parce que c'est un film qui n'a pas été... Les personnes qui ont travaillé autour de ce film, il n'y avait pas de cinéaste.
Alors, il n'y avait aucun cinéaste dans l'aventure de départ, puisque Fernand Deligny lui-même n'est pas cinéaste. Il écrit... Il a d'ailleurs, tout à fait, depuis le début, il dit que de toute façon, il ne touchera jamais une caméra, même s'il est fasciné par les machines, par les caméras. Mais lui, il était hors de question qu'il touche la caméra. Mais José Malinti, qui vivait avec lui, qui était une infirmière de formation, mais qui était devenue pratiquement sa complice, son adjointe, qu'il a accompagné dans son travail d'écriture, de pensée, c'est un personnage tout à fait considérable, avait, elle, une formation photo et une passion pour la photo. Et il lui a confié la mise en... Peut-être, on pourrait peut-être dire la mise en scène, au sens où c'est elle qui choisissait les espaces où allait se jouer les scènes, où elle choisissait la lumière avec laquelle on allait tourner, le jour. C'est elle qui posait la caméra, qui prenait la position, qui décidait de l'angle de prise de vue. Et elle est responsable de l'image de ce film et de la... Et elle a accompagné la conception de l'aventure très 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 près de Deligny. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il était tout à fait important qu'elle apparaisse dans l'aventure comme co-réalisatrice, quoi.
Et alors, toi, à cette époque, pendant que le film se fait, est-ce que déjà tu entends parler de Deligny, puisqu'il est... Il a une période où, effectivement, il a une certaine aura, plus que ça même. Au moment où tu rentres en contact avec ces rushs qui te sont apportés à Marseille, quelle pensée, quelle idée tu as, quelle connaissance tu as de ce personnage, Deligny, à ce moment-là ?
Alors, très clairement, aucune. Quand Jacques Allaire me propose de regarder ces rushs, d'ouvrir la malle avec lui et de regarder ces images... Je n'ai absolument aucune idée de qui est Fernand Deligny et de ce qu'il était en train de vivre. Le fait que le travail de Fernand Deligny dans les Cévennes avec les enfants autistes ait été connu, c'est plus tard. Ça veut dire que la reconnaissance, une nouvelle reconnaissance du travail de Deligny après une période d'absence, s'est jouée plus dans les années, en gros, après le film. Après le moindre geste, et pas à cause du moindre geste, mais c'est joué plutôt en 72, 73, 74, qu'au moment où je le rencontre. Et donc, d'une certaine façon, non, je n'ai pas entendu parler de son travail, et Jacques me raconte effectivement très précisément. Il se trouve, et je pense que c'est important de le dire comme ça, c'est que mon itinéraire personnel, politique, J'ai toute une aventure pédagogique en lien avec l'éducation nouvelle et en particulier les CMEA, centre d'entraînement en méthode d'éducation active. Dans ma jeunesse, dans mon parcours, j'ai un engagement militant à l'époque. Je suis membre du Parti communiste. Ça me cale dans un univers, et je comprendrai après, qui était tout à fait important pour Deligny. C'est-à-dire que je l'ai croisé... Et il m'a, d'une certaine façon, il y a des moments, je dis, quand je l'ai vu pour la première fois et qu'il m'a dit, vas-y, tu as tout compris, je te laisse tranquille. Et puis il m'a laissé complètement faire le film. C'est plutôt quelqu'un qui était capable de respirer, de sentir que, oui, lui, il est des nôtres, vas-y, quoi.
D'accord.
Je te repère. Tu peux y aller. Et il avait fait ça avec Joe Malinti. En fait, il a fait ça tout le temps.
Alors, est-ce que tu pourrais quand même nous dire deux, trois mots sur cette rencontre avec Deligny ? Comment ça s'est passé ?
Donc moi, concrètement, Jacques me montre, me propose de regarder ses rushs, et j'ouvre la boîte, je lance les rushs, et je me rends compte, dans l'instant même où j'ai vu les premières images, que ces images, non seulement elles me frappent, mais j'ai le culot de dire, mais c'est moi qui les ai faites. J'ai eu l'impression que par rapport à ma manière, je venais de faire l'IDEC, j'étais opérateur, et dans mon approche du cinéma, j'étais très, très impressionné par le travail du documentariste, et en particulier des Canadiens, de Perrault, des gens comme ça. J'étais très influencé aussi, très fortement touché aussi par le cinéma burlesque, par une image très matérialiste, noir et blanc. Enfin, et moi, je prends ce film, je prends ces images-là tellement à cœur que j'ai l'impression que, oui, mais c'est moi qui les ai faites, enfin, entre guillemets, hein. Et donc, je m'attache à ça. Et dans la malle, dans le fatras qu'il y avait là, au fur et à mesure que je regarde, je me rends compte qu'il y a des images qui ne m'intéressent pas du tout, qui ne sont pas de cet ordre-là, et il y en a qui m'intéressent beaucoup. Et je commence à trier comme ça. Et puis, je me rends compte aussi que les images ont été touchées, qu'on a tenté de faire des bouts de montage. Et ces bouts de montage, quand je les regarde, ils me paraissent complètement insupportables, parce qu'ils essayent de donner du sens et de dire des choses de façon très, très, très schématique par des montages alternés. Et je me rends compte qu'on a coupé les plans. Et qu'en fait, les plans sont longs. Et que les tournages ont été des espèces de moments où on a laissé tourner la caméra dans un espèce de rapport d'improvisation tout en étant dans un cadre de fiction. Une espèce de relation très étroite entre improvisation et fiction. Et donc, je repère ça. Et au bout de, je crois que c'est duré 15 jours, 3 semaines à peu près, Jacques me dit, bah, écoute, on va aller voir Deligny pour voir un peu ce qu'il en pense et tout. Et je lui raconte ça. Je lui dis, moi, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse. Ça. Et c'est là qu'il m'a dit, t'as tout compris, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, en disant ça, j'avais mis le doigt, et je l'ai compris après, hein, tout ça, j'avais mis le doigt sur ce que lui avait cherché dans ce film. C'était effectivement cette idée que, par le cinéma, le moindre des gestes d'Yves devenait perceptible. Et que ce qui lui importe, lui, c'est pas de modifier le réel. C'est pas de rééduquer un enfant autiste pour qu'il devienne un petit comme les autres. C'est de donner la totalité de la puissance de celui qui est là, avec sa complexité telle qu'elle est là, sans d'abord, quoi. D'abord reconnaître tout ce qui est là, faire émerger tout le potentiel qui est là, présent devant moi, de tel enfant ou de tel enfant ou de telle personne ou de telle image.
Et les plans que tu avais rejetés, c'était quoi, par exemple ?
C'était des plans de fiction, mais justement qui n'étaient pas des... C'était des bouts d'histoire d'amour qui partaient dans d'autres côtés, entre des relations entre des personnages entiers que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, là, qu'on voit se balader avec son fusil et tout. Et c'était dans l'aventure du tournage qui a duré donc 3 ans, et où Deligny a laissé le petit groupe s'emparer du projet film, et d'un coup, éventuellement, de raconter des bouts d'histoire qui partaient. Et le film est fait de certaines fuites, de certains personnages que j'ai récupérés, mais de façon très étroite, en éliminant beaucoup de choses. Enfin, il y a un personnage, quand ça se met le chapeau, toutes les deux filles, là, en fait, il y avait toute une histoire d'amour entre une des deux qui venait d'arriver, celle qui a peur, Marie-Rose, là, quand Yves tape du pied devant l'arbre. Et il y avait toute une histoire d'amour avec celui qui remet des pierres sur les murettes, quoi. Et donc, tout ça, je l'avais... ça me paraissait pas intéressant. Donc, moi, je me suis centré sur Yves et j'ai eu l'impression que c'était... Tous ceux qui pouvaient croiser le chemin d'Yves pouvaient être intéressants, même s'ils n'étaient pas dans le même plan. Parce qu'il y a très peu de moments où on les voit ensemble. Annie, par exemple, et la jeune, et Yves, ils sont rarement ensemble, sauf à la fin. Et donc, j'ai senti cette espèce de... En gros, il y avait une gangue autour de quelque chose, et cette gangue, il fallait l'enlever.
Mais c'était... ce qui fait que tu as attaqué le film... Par l'image, exclusivement.
Ah, moi, j'ai attaqué le film par l'image. D'accord. Je n'ai pas écouté le son.
C'est intéressant aussi par rapport à ce que Deligny dit de l'image aussi, que ouais. Tu as attaqué le film par l'image.
Ah oui, moi, j'ai attaqué
l'image
le film
autiste.
Par l'image. Ouais. L'image en tant qu'effectivement, qui est autiste et qui ne dit rien. Et justement, chaque fois que je sentais qu'on avait cherché à les faire dire, en l'impliquant soit dans un processus psychologique, soit dans un processus narratif, comme par exemple filmer un gamin qui marche le long de l'eau, et puis de couper ce plan très long où les gamins marchent le long de l'eau par une boîte de conserve qui flotte le long de la rivière, et où on passe de la boîte de conserve avec le gamin qui marche une boîte de conserve. Bon, d'accord, ils marchent, ils sont perdus comme la boîte de conserve, tu vois, mais si tu enlèves la boîte de conserve et que tu gardes que le plan des gosses qui marchent, ça dit autre chose. C'est autre chose. Et ce qu'il avait tourné, lui, c'est les gosses qui marchent. C'était pas le moyen de pouvoir raconter la dérive de deux enfants le long d'une rivière.
Alors comment tu expliques, je dirais, le fait que tu puisses appréhender ces rushs aussi de manière aussi entière, alors que tu es fraîchement sorti de l'IDEC. Bon, tu fais référence à ces films que tu as vus pendant ta formation ou après ta formation, mais qu'est-ce qui selon toi fait que tout d'un coup tu es subjugué par ces quelque chose qui s'expliquerait pas, donc du coup?
Non, qui s'explique pas, mais je pense que la formation que j'ai eue, la chance que j'ai eue moi dans ma formation de cinématographique, enfin l'aventure que j'ai vécue entre le moment où bon, il y a des choses qui se jouent dans mon parcours plus jeune, mais c'est la rencontre en particulier d'un opérateur qui s'appelait Guylain Cloquet, qui était mon prof à l'IDEC, et qui est un de ces opérateurs qui a formé toute la génération des opérateurs des années 70, et qui est en particulier l'opérateur qui a fait tous les films dans l'air aîné, tous les courts-métrages dans l'air aîné, comme Toutes les mémoires du monde ou Nuit et brouillard, ou des films comme ça. Et c'était des gens qui s'étaient emparés des caméras après la guerre, avec l'idée de les prendre à la main, de les prendre à l'épaule, donc d'être dans un rapport, si tu veux, en gros de bagarre avec le réel, tout en étant conduite par des Chris Marker, des Alain René, c'est-à-dire dans un souci formel, dans une envie quand même d'apprendre les choses et de construire des objets, si tu veux, qui ne soient pas purement de la copie de la réalité. Et je pense que j'étais peut-être sensible à cette idée-là, par la formation par ailleurs, mais Guylain Cloquet a joué un rôle considérable dans ma manière d'un coup. Moi, je dis, si je suis un peu quelque chose, je suis opérateur, quoi, si tu veux. Moi, et surtout celui qui prend la caméra et qui cadre. J'ai beaucoup plus de difficultés avec la question de la lumière et de la maîtrise de l'image. Mais le cadre et le fait d'un coup de savoir que tu mets une caméra et que tu n'arrêtes pas de tourner, que tu laisses tourner, tu arrêtes quand c'est fini. Cette idée-là, si tu veux, je pense que j'étais très sensible à ça et que c'était dans l'air du temps des années 60. C'est l'époque où, après je le rencontrerai après, où des jeunes, tu avais dans le son, des gens comme Antoine Mofanti qui s'étaient embarqués dans l'aventure du son direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis là, on tourne, il y a des acteurs, il y a tout autour des tas de choses. Je veux que le son que je prenne et qui reste dans le film, c'est celui qui se dit au moment de la prise. Et je me débrouille pour faire que le micro soit à sa place et qu'il ne gêne pas la prise de vue et que pourtant il ramasse un son qui restera celui, on ne le doublera pas, on ne le triturera pas et on le prendra tel qu'il est. Je pense qu'il y avait comme ça, tu sais, dans ce qu'on a appelé le cinéma direct, des idées autour du direct, autour du comme ça, de la prise des choses, qui faisaient que j'y étais très sensible, quoi, je crois.
Ouais. Je vous propose d'écouter Yves, un petit coup.
Ça, c'est un autre son, alors.
Le bon Dieu vous a béni tout ça.
Je
et toi, Marie, pleine de grâce et tout ça, au salut Marie, à tous ceux qui m'ont béni ce jour-là, à 1813, amen. Tout cela, ça sacrifié comme la terre, comme au ciel, amen. Voyez là-haut, la terre, comme au ciel, bénissez là-haut. Le bon Dieu qui nous a tués, je vous bénis tout le monde, la terre comme au ciel, le bon Dieu, le mari, peine de grâce, etc., etc. Fais comme vous, mon ami, donnez-nous du sang, donnez-nous mon cercueil, donnez-nous notre crâne, la terre comme au ciel, donnez-nous notre Seigneur, donnez-nous nos pieds, donnez-nous notre crâne, donnez-nous le dragé, donnez-nous tout ça, donnez-nous le bénition, donnez-nous tout ça, donnez-nous le terre, donnez-nous tout ça, donnez-nous le terre, donnez-nous notre prière à tout le monde, ceux qui sont fidèles à la messe de dimanche matin, à nous voir les cercueils et l'enterrement, nos fleurs, nos tombes, bénissons tout ça, allez mettre ça à l'autel, allez voir le bon Dieu qui n'est pas crevé, allez voir s'il n'y a pas le bon Dieu, le feu s'y fesse, allez rêver tout ça, crevez-nous le ciel, crevons-nous tout ça, faites comme chez nous, mes amis, crevons-nous le ciel, là-haut, crevons-nous la terre, au ciel tout ça. Faites comme chez vous, mes amis, comme au ciel est crevé. Voyez bien, mes frères. Ah, mes frères, voyez, je vais crever. La croix est devant vous, mes frères. Voyez, venez chez moi, je vous donnerai de l'eau bénite. Prenez le serment, allez dire ça au Seigneur là-haut. Donnez-moi votre chat, vos pieds, au salut Marie-Fenne de crache, etc., etc. Je vous ai dit amen, bande de cons.
Donc, nous venons d'écouter un extrait du Moindre Geste. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce son?
Donc là, j'évoquais l'image tout à l'heure en vous disant que... effectivement, on avait travaillé l'image d'une certaine façon. Enfin, j'ai repéré l'image du point de vue de son, de sa matérialité pour aller. Hein. Ces sons, c'est des sons qui ont été enregistrés par l'équipe là, avec Yves et Yves, donc Deligny et José Manenti, mais plus Deligny. José Manenti me disait qu'elle n'était pas tellement présente à ces enregistrements-là. Alors, ils ont une petite histoire, ces sons. Il y a d'abord, au départ, ils imaginaient pouvoir enregistrer le son, enfin ce que Yves pouvait dire pendant le tournage. Parce que Yves, dans la vie quotidienne, était à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'il était toujours porteur, comme vous l'avez fait entendre, Deligny l'a dit, toujours porteur d'une parole. Il racontait, il partait comme ça, qu'il regarde la télévision, qu'il soit dans un coin, et il partait comme ça. Ça avait toujours à voir avec quelque chose qui venait de se passer, ou quelque chose qui... Donc, c'est un écho. Et... Pour tourner à cette époque-là le son en même temps, ils sont partis pendant quelques jours avec, en ayant fabriqué un casier avec des batteries de voiture, il y en avait trois, et ils baladaient dans la colline avec les batteries de voiture, la perche, pour essayer d'enregistrer les sons de Yves. Ils ont capitulé, ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveraient pas, et que donc, voilà. Alors, Deligny a pris la décision de dire, bah, écoute, Yves, il racontera ce qu'il a fait dans la journée le soir. Donc quand ils arrivaient, et en plus ça sera bien comme ça, il n'y aura pas les cigales. Parce qu'on ne va pas écouter les cigales, on n'est pas là pour entendre les cigales. Et donc il a mis le magnétophone qu'ils avaient dans une pièce, et Yves le soir, un peu avec lui, ou Yves tout seul, petit à petit, reprenait ce qui s'était passé dans la journée, et re-racontait des choses qu'ils avaient jouées. Il l'avait peut-être un peu dit comme ça dans la journée, José Manenti m'a dit, c'était pas tout à fait exactement comme ça. Il se sentait beaucoup plus libre devant le micro quand il était seul, à d'un coup exagérer le lyrisme de ça, la puissance de sa parole. Dans la journée, il était moins comme ça quand il s'exprimait sur le terrain. Et donc ces bandes-là étaient des bandes aussi tournées de façon assez très, 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 de très mauvaise qualité. C'était des bandes... Il y avait quatre pistes à la fois alternées. Et donc, elles étaient dans la malle en question. Elles y étaient, ces bandes. Il y avait à peu près... il y avait 10 heures d'image. Il y avait 7-8 heures de son, comme ça. Et moi, je les ai écoutées assez tard, ces bandes. J'ai beaucoup travaillé sur l'image. Et j'ai d'abord réduit le projet du film et essayé de le construire en essayant de savoir quels personnages on gardait, comment on essayait d'organiser les choses. Et à un moment, d'un coup, j'ai amené le son comme ça pour voir un peu comment il résonnait avec le film. Mais pratiquement, si moi je dis que j'ai à peu près monté 2 ans, et le montage son proprement dit, il dure 3 mois. D'accord. sur la fin, quoi. Et il se fait dans le contexte du montage son que j'ai eu la chance de pouvoir faire à Paris, grâce à Chris Marker qui nous a d'un coup ouvert cette possibilité de vraiment pouvoir monter le son sur de vrais tables montage son avec le repiquage de tous ces bandes-là.
Comme en 2 ans, tu étais sans son alors ?
Pendant 2 ans, j'avais le magnétophone. Au début, je ne l'écoutais pas. Petit à petit, je me suis mis à l'écouter. On l'a écouté avec Jacques, on l'écoutait comme ça. Mais sans se poser la question de savoir si ça pourrait être là. C'est plutôt pour essayer de repérer ces grands ensembles. Le grand discours à Strasbourg, le moment sur la mort, la messe. On avait comme ça des espèces, c'est comme si on avait des histoires. Tu vois, on connaissait, on savait en gros, on avait tout ça en quoi. Et l'idée après, ça a été au départ simplement de se dire, ces sons-là, vous les écoutez comme ça. Je ne sais pas comment les auditeurs ont pu les entendre là, mais au début, celui-là, il est très clair, celui à la messe. Mais il y a par exemple le dernier qui est une espèce de grand discours à Strasbourg, à la libération de Strasbourg. Si vous l'écoutez pour la première fois comme ça, comme il était dans la bande, on ne le comprend pas. On ne l'entend pas. Et donc notre projet, ça a été d'habituer le spectateur à la voix d'Yves en faisant que petit à petit, il rentre dans l'espace et fasse que d'un coup, on l'a entendu comme ça, on le reconnaît, on repasse de là et on était dans cette espèce de propédeutique. Encore une fois, faire que le montage permette à ce qu'on regarde le moindre des gestes d'Yves sans se poser la question de l'histoire, en oubliant la fiction. Et de l'autre côté, rentrer petit à petit dans la voix de Yves et venir faire un espèce de raccord très particulier entre cette voix et lui dans la nature.
Dans cette période de montage, tu es assez seul. Comment ça se passe? Est-ce que tu as aucun contact avec Deligny à ce moment-là? Il te laisse complètement libre de travailler? Comment ça se passe ces premiers temps de montage en fait?
Donc à part la première rencontre que je vous ai évoquée tout à l'heure, où je vais le voir en lui disant, il me semble qu'il y a ça, et qu'il me dit, vas-y, t'as tout compris, fais-le. Je le vois pas pendant l'année. On y est peut-être allé une fois avec Jacques, on va le rencontrer, on va parler, mais je lui montre rien. C'est pas parce que je veux pas, hein, mais lui, il en a rien. Il veut pas. Il veut savoir, ça avance, ça travaille, vas-y, vous perdez pas du temps, vous avez l'impression d'y arriver. Donc, quand je monte à Granier, j'ai dû monter une ou deux fois dans l'année avec Jacques, quoi, pour le voir. Et j'y reste la journée et je redescends.
Et comment tu le sens, ça? C'est quelque chose, à un moment donné, où il te fait entièrement confiance, il se dessaisit de la matière, il est...
Je pense qu'il est... Effectivement, c'est plus son affaire. D'abord, il est... Lui, à partir de ce moment-là, lui déjà très mobilisé par la relation avec les enfants autistes qu'il a autour de lui, et en particulier avec Jean-Marie. Et donc, quelque part, Yves, il est déjà un peu parti, quoi. Hein. Jo, elle est partie et il a cherché à l'écarter aussi. Donc, d'une certaine façon, c'est plus trop son actualité. Mais il y tient. Mais donc, moi, concrètement, je monte comme je veux. Jacques Allaire, qui est à côté de moi, même s'il a travaillé avec Deligny, se met pas dans l'histoire. En même temps, puisque j'étais dans les combles du centre social qu'il dirigeait, où j'étais planqué avec une table de montage à manivelle pour essayer de faire avancer les choses. Il vient, bien sûr, on se voit, on en parle, mais il me laisse assez libre. J'ai plutôt autour de moi ma femme de l'époque, une ou deux personnes comme ça qui ont eu envie d'aller un peu plus loin. Et donc je suis pas tout seul, mais je suis responsable.
Donc le recul, comment tu le prends par rapport au travail que tu fais justement de montage?
Tu le vis, ça? On a beaucoup joué avec Jacques, oui, c'est ça le rôle qu'il avait, Jacques. En fait, on a beaucoup joué sur ce que je vous disais tout à l'heure, savoir où il est l'essentiel du film et qu'est-ce qui n'est pas le film. Sans se poser la question de la durée. Hein. On a tenté d'enlever les personnages. Et je faisais des montages, des pré-montages, où j'enlevais carrément un personnage complet. Et lui, Jacques, il connaissait tous les éducateurs de la région et tous les lieux d'éducateurs qui étaient à cette époque-là, tous, qui voulaient savoir ce qui se passait chez Deligny. Il dit, on va faire une projection, là, on vous montre un peu le truc, et on projetait, on enlevait un personnage. Et après, quand on revenait, on dit, oui, tu vois, là, quand même, là, c'est clair que... Quand on avait enlevé Annie, on s'était bien rendu compte qu'il manquait quelque chose, tu vois, dans la construction. Et on a même fait une projection où on a enlevé Yves. Où on a projeté tout ce qu'on pouvait, sauf Yves, si tu veux. Mais donc, c'était ça un peu notre manière de prendre du recul, je crois. C'est ces projections où, quelque part, on essayait de voir qui avait véritablement un lien avec Yves. Est-ce qu'il est dans le paysage? Est-ce que Il est à proximité? Est-ce qu'il vient de se rapprocher? Est-ce qu'Yves réagit à quelque chose de cet ordre-là ou est-ce que pas? Toujours pour essayer de construire le autour de l'itinéraire de Yves, mais sans plus, quoi.
Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu restes un peu, j'allais dire, vierge par rapport à la pensée de Deligny, très riche, etc. Oui.
Complètement.
D'accord.
Il m'avait demandé de lire Adrien Lhomme, qui est un roman qu'il a fait. Si, j'ai lu à ce moment-là Graines de crapule, c'est-à-dire les premiers textes du début de l'aventure de Deligny, cette aventure militante communiste de la libération où il s'engage à Armentières et dans la Grande Cordée dans des aventures effectivement très militantes, projet CMEA. C'est plutôt, il m'a un peu poussé sur ce côté-là quand il a compris que j'avais cette relation-là. Mais toute sa pensée sur l'autisme, d'abord, il avait très peu écrit à cette époque-là. Concrètement, quand on regarde la grande quantité d'écriture de Deligny, quand on regarde le gros livre que a édité Sandra Alvarez de Toledo, l'Arachnéen, si vous regardez les dates, le gros de l'écriture se fait après. C'est-à-dire qu'on imagine Deligny écrivant autour, à partir de cette relation avec les enfants autistes, mais c'est 10 ans sur la totalité de sa vie. Et c'est dans ces 10 ans-là, c'est là qu'il y a le maximum d'écriture. Même si, en fait, il y a des tas d'inédits qui étaient un peu, qui existaient de ci, de là, qui sont devenus des textes après, quoi. Et donc, moi, non, il me faisait pas lire, et moi, j'ai pas tellement lu. Donc. Non, c'était plus...
Il n'avait pas encore écrit ses textes sur le cinéma caméré ou la caméra.
Non, c'est venu après. D'accord. Non, c'est venu après. Ouais.
Et toi, quand tu faisais le montage, tu écrivais? Parce que nous, quand on a regardé le film cet après-midi, on se raconte des histoires, on essaye de se raconter des histoires, de se raccrocher à des choses. Et toi, tu te raccrochais à quoi pendant le montage? Tu te racontais des histoires, tu écrivais.
J'ai retrouvé le cahier de script, enfin l'espèce de dossier que j'avais à ce moment-là. Je crois que j'étais... Non, j'étais vraiment très centralé, très centré sur l'image en tant qu'objet. Et sur ses durées, si elle résonnait si elle pouvait s'enchaîner à celle-là ou pas celle-là. Ou, tu vois, j'étais...
Cette question du début et de la fin du film, du coup, tu te la posais comment?
On s'était mis dans la tête de caler sur les 3 jours, sur... le fil du conducteur qui est, en gros, on la raconte dès le début, il y a une histoire, il va tomber dans un trou et l'autre va la ramener à l'asile. Et on le raconte dès le début. Avec cette idée, tout faire pour que le plus vite possible, le spectateur oublie l'histoire. Et ne se pose plus la question de... Et maintenant, attends, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, tu vois, il fallait que le petit disparaisse dans le trou et qu'on l'oublie. Et donc on était plus... Et après, c'était plus de se dire, est-ce que c'est le filin qui est là plutôt que les boîtes? Est-ce que c'est plutôt la montée dans les restaurants? Qu'est-ce que c'est le moment où il s'endort et qui va avant celui-là? C'était plus une espèce de comment les choses pouvaient s'enchaîner. Je sais pas si tu vois. Et plus dans les mouvements des images. Tu vois. Il y a l'histoire du nœud du début. Le nœud, il y est tout le long, presque, d'une certaine façon. C'est toujours un filin, un truc à nouer, hein, ce film, si tu veux. Mais on cherche pas à le rendre progressif. Quand il fait son nœud sur la restante, à un moment, il le fait au début et il le fait plus après. Donc on est complètement dans un... Et donc on n'a absolument pas cherché à se caler sur l'itinéraire. À partir du moment où l'autre est tombé dans le trou, lui est dehors, qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça dérive, pouvait passer par là ou par là ou par là. Et on a plutôt cherché à sentir s'il y avait des tensions entre... Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. J'étais beaucoup plus sur ça que sur autre chose, quoi.
Donc là, on va écouter un extrait de Acheminement vers l'image, lu par Fabien David. Texte de Fernand Deligny qui date de 82.
C'est là un mot dont l'usage est fort répandu. Reste à savoir si l'usage surabondant d'une appellation correspond à l'existence de ce que cette appellation soi-disant évoque. Il peut arriver que la surabondance du vocable dénote la disparition de ce qu'il est supposé évoquer. Le vocable, alors devenant ersatz, quitte à ce que l'habitude prise de l'ersatz élimine la nécessité du produit d'origine. Or, image est un mot fort important. Il se pourrait, et c'est ce que je dis au preneur d'image, que l'être humain soit logé à 2 enseignes d'égale importance et qui, tout autant l'une que l'autre, lui donne ses caractéristiques fort singulières d'être parlant. Et ceci dit, le philosophe qui va cheminant à travers la culture en quête de la source vivace de la parole se trouve aux prises avec un mouvement dont la nature échappe. À ce philosophe manque l'expérience d'un détour en tant que présence proche de quelque enfant privé depuis toujours de l'usage du langage. Vivant proche et comme en symbiose, apparaît l'évidence d'un mouvement dont l'aboutissement n'est pas la parole qui, d'après le philosophe, intervient chaque fois et toujours. Ce qui intervient est mouvement d'agir, ce mouvement ricochant d'un mouvement provoqué à coup sûr par l'image qui a surgi spontanément, comme par réflexe. Où se voit ce que je veux dire si on admet les deux enseignes, que le même mouvement, même à l'origine, peut s'acheminer vers la parole si parole il y a, ou vers l'agir qu'il ne faut pas confondre avec faire quoi que ce soit. Deux chemins donc, et fort distincts. Et on voit bien que loi, engagée depuis belle lurette, dans la voie domestique, bat encore des ailes et allonge le cou quand passent les oies véritables, encore et toujours malgré son sort. Repu, gavé, gorgé et regorgeant de la parole, l'être humain réagit au passage de l'image, vainement, et cette image est dramatique, car ce mouvement qui est sursaut lui échappe au point qu'il se demande d'où ça vient et où ça va. Tout se passe comme si les deux oies voisinaient, comme le philosophe le dit de l'être humain et du langage, voisin proche, même s'il nous semble bien que ce voisinage est symbiose. Il est difficile de penser que l'oie domestique se souvienne des ancêtres, et alors elle les saluerait au passage d'un mouvement d'intention ritualisé, et c'est d'ailleurs ce que l'être humain ne manque pas de faire, non pas à propos des oies, mais pour ce qui le concerne. Lorsqu'il s'agit de loi, où loger ce qui garderait mémoire? Où il apparaît que la mémoire en ce n'est pas la seule. Il y a donc une mémoire domestique et une mémoire autre qui voisine tout comme l'algue et le champignon dans cet individu dénommé lichen. Il a donc fallu, et c'est ce que je dis aux preneurs d'images, que nous allions passer par les oies pour en venir aux images. C'est un long détour, mais qui a le mérite d'éclairer une confusion admise de par l'usage d'un mot qui, surchargé de tout dire, ne dit rien du tout, tout un chacun l'entendant pour ce qu'il veut dire. Mais voyez où les oies nous mènent, jusqu'à la liberté. L'oie domestique n'a plus la liberté d'agir selon le mouvement qu'elle ressent lors du passage des oies soi-disant sauvages, qui sont oies d'espèce, et voilà tout. Aussi humaines que soient les images dont je parle, c'est d'images qu'il s'agit et de rien d'autre, et si je les dis humaines, c'est qu'elles le sont, et d'une manière qui ressemble fort à ce qu'il en est des oies qui vivent en troupe et en constellation, ce mot de formation qui convient pour désigner ce qui advient entre elles lorsqu'il s'agit de s'envoler, de répondre à une menace, de préluder à l'accouplement, et tout ce qui concerne la vie de l'espèce. Nous sommes hantés par un peuple d'images. Si vous entendez hanté comme quelqu'un d'antan l'aurait entendu, c'est-à-dire habité tout simplement. Et il n'est pas étonnant que ce mot soit venu de Scandinavie, pays des oies par excellence. Il aurait fort bien pu se faire que de tout un chacun de nous soit ce petit bonhomme à califourchon sur leur cou et donc porté et emporté par elle. Le hasard en a décidé autrement. Le hasard ou je ne sais quoi. Le petit bonhomme les a domestiqués. Elles le servent, nourrissent sa pensée. Leur troupe harmonieuse est devenue troupeau qu'un enfant peut garder, les menant paître. Il est tout à fait étonnant que le mouton soit devenu ce qu'on en voit dans les églises et fort honoré, alors que l'oie, c'est bête qu'elle est. Ce qui montre à quel point l'homme que nous sommes agit sans vergogne, ne connaissant des espèces animales, à part bien sûr leur usage nutritif ou utilitaire, que ce qui lui suffit pour effourer les allusions qui lui conviennent, l'image lui suffit, et on voit bien alors ce que l'image est devenue. Tigre, panthère, puma, sont en photo dans les albums et c'est de la pub. Les animaux sauvages semblent faits pour ça, pour porter de la pub. Tout comme un écran de télé ou le plastron d'un coureur. Et l'enfant, possesseur de l'album où sont collés les animaux sauvages, devenant de plus en plus idiot cependant qu'il devient agrégé ou ingénieur. On lui apprend à discuter, à voter, à prendre la parole. Parodie qui le forme, comme on dit, et le cultive sans qu'on sache trop s'il est le terrain ou le chou-fleur. La terre se cultive et le chou-fleur aussi, et la haute idée qu'on a de soi-même. Il ne faut pas croire que ce traitement est réservé au monde animal ou végétal. Il en va de même pour ce qui est humain, tout autant engraissé, asservi et appelé sauvage à moins qu'esclaves ils ne deviennent. Par ici, par là, quelques individus s'émerveillent de la manière dont les araignées font leur toile, ou les castors leur digue et leur hutte, ou les termites leur puits d'aération. Ils restent pantois devant les inextricables articulations de l'instinct propre à chaque espèce, de cette adresse, de cette ingéniosité, de ce génie qui nous échappe alors qu'il nous arrive de reconnaître le nôtre, celui de l'homme que nous sommes. On croit le reconnaître. Il nous échappe tout autant que celui de n'importe quelle espèce et pour cause. C'est le même mouvement dont le philosophe s'étonne que, par-de-ça son aboutissement à la parole, selon lui inéluctable, il reste et demeure mystère. Et c'est ce que je dis aux preneurs d'images. Prendre, attraper une oie domestique est à la portée de tout éleveur et même de tout passant qui aurait la main preste.
Ça va bientôt être à vous.
Tout comme les images de même nature sont compréhensibles, saisissables. Reste qu'un vol d'oies forme, haut dans le ciel, une constellation immuable. Les oies alignées en V, l'oie de pointe relayée par une autre fort opportunément. Les vraies images, celles qui ne sont pas surchargées de représenter quoi que ce soit, ont entre elles des formes qui n'attendent que les circonstances opportunes pour se déployer comme avant. Mais avant quoi? Cet avant risque fort d'être un leurre, qu'ils se disent avant ou ailleurs. C'est maintenant, là, et dorénavant qu'il s'agit d'images.
Alors, on retourne sur le plateau de Galère. Alors, ce qui est vrai, ce qui est assez étonnant quand on voit ce film, quand on découvre ce film, ou quand on redécouvre ce film, c'est que on a la sensation que tout nous échappe. Et tu disais, Jean-Pierre Daniel, que si on voulait s'en raccrocher à quelque chose, on n'y arrivait pas. Et donc il y a une espèce de lâcher prise à comment tu expliques ça en fait? C'est une espèce de lâcher prise à avoir, hein, sans quoi on est paumé quoi.
Je pense que l'aventure du film tel que qu'on propose en tant que spectacle, qui à mon avis vient très directement de la pensée de Denis. Moi, je pense que c'est cette idée que il n'y a rien d'autre que ça, et que ça c'est tout. Et comment arriver à se mettre dans la situation d'un coup de se mettre à regarder quelque chose et de penser que tout est là, quoi. Et que c'est en le regardant et en le regardant et en le regardant encore que d'un coup je m'apercevrai que ça se met à prendre du poids et à m'interpeller complètement. Et ça veut dire qu'il faut se débarrasser le film de sa trame de fiction, tout en sachant que c'est parce que c'est une fiction que c'est possible. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est Yves joue. Yves joue, on lui a dit. Là, maintenant, l'autre est tombé dans un trou. Et qu'est-ce que tu fais pour le sortir du trou? Et après, tu retournes à l'asile. Et Yves sait qu'il joue. Il sait. Il est dans ce jeu-là. Et dès que la caméra tourne et qu'il est en train de... qu'il fait quelque chose qui va dans ce sens-là, il fait la messe, il ramasse des cailloux, il remonte un câble, il essaye de faire des nœuds pour pouvoir fabriquer un filin qui va lui permettre d'aller sortir l'autre qui est dans son trou. Dès qu'il est dans ces gestes-là, il n'est pas dans la fiction, il n'est pas dans le scénario. Il le fait, le geste, il est dans le geste. Et c'est tout ce jeu de comment faire pour que la fiction elle est la condition qui permet à ce geste d'Yves d'être plein. Si on avait trouvé Yves dans un coin en train de faire un nœud point et on l'est filmé comme à l'improviste avec une caméra cachée, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas pu le mettre dans une situation de jeu, on n'aurait jamais eu ces moments-là.
Ce qu'il appelle les circonstances adéquates.
Je pense, quoi. Ça veut dire qu'il crée une situation, et dans cette situation, d'un coup, quelque chose advient de cette complexité des gestes, de cette complexité de ce personnage. Mais je veux dire, c'est ça le cinéma.
Alors,
pour moi, c'est le cas, c'est la caméra-lumière. Qu'est-ce que c'est la caméra-lumière? C'est pas une caméra qui, par hasard, ramasse un plan. C'est un cadre, c'est posé, c'est attention, clac, et pendant 30 secondes, je capte. Et les plans, ils sont cadrés, ils sont travaillés, ils sont de telle façon que ça. Mais ce qui advient pendant les 30 secondes où je tourne,
tout est là,
quoi. Et c'est cette immédiateté, c'est cette force comme ça de la présence sur l'écran de quelque chose qui est effectivement inouï, qui sort, qui vient, qui s'improvise, et qui en même temps, dans un cadre suffisamment conceptuel et suffisamment particulier, une situation qui permet à ce moment-là de se laisser aller à l'appréhension de l'autre, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre en disant ça, quoi.
Est-ce que, par rapport à ce film, du coup, qui a travaillé à partir de 68, il y a un rapport entre l'époque, enfin, de mai 68 et la possibilité pour toi de t'engager sur un film comme celui-là?
Non, vraiment pas. Je pense que moi, j'ai vécu 68 comme un moment à la fois. Bon, j'avais à peu près 30 ans et je l'ai vécu comme un moment effectivement de grand délire, de grande force, quoi. Mais par rapport à ce qui se jouait et ce qui se joue dans le moindre geste, ou ce qui se jouait autour de la pensée de l'antipsychiatrie, Deleuze, Guattari, Jean Houry, tout ce qui se jouait là, qui s'est joué avant. Je veux dire, quelque part, c'est le film, il est beaucoup plus basé sur quelque chose, sur un travail de pensée qui s'élabore depuis les années 60, et qui, d'une certaine façon, a été tordu par 68, a explosé. Pour moi, 68, c'est une espèce de grand moment de folie, mais qui, d'une certaine façon, soi-disant, en donnant l'impression qu'elle reprend toutes les idées qui sont là, qui sont en train de germer depuis les années 60, difficilement avec passion, chez des philosophes, chez des artistes et tout. Moi, j'ai dit Bouzy, d'une certaine façon. Et je pense, si tu veux, cette modernité qui était en construction, c'est pas la modernité de la nouvelle vague, hein. Je veux dire, Truffaut, il a rien compris à Deligny et au moindre geste.
Et ça s'inscrit, ouais, du coup dans quelle...
Moi, pour moi, c'est beaucoup plus une filiation philosophique. Je veux dire, Tosquelles, de la pensée des antipsychiatries, de l'antipsychiatrie, de Tosquelles, Deleuze. Deleuze travaillait, était avec Guattari et Houry à la Borde. Donc il y a toute une pensée philosophique. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de ça pour arriver à te tracer tous les... Mais qui est à l'œuvre à ce moment-là, si tu veux, qui est pas du tout... qui, d'une certaine façon, a nourri la pensée de ce qui s'est vécu en 68, mais là, je veux dire, dans le film, il y a un seul discours de Yves que j'ai enregistré, moi, si tu veux. C'est un discours que, justement, je récupère à Yves fin 68, et je fais, moi, les sons de Yves, les sons de Rivière et autres, dans le courant de l'été suivant, je crois. Et à ce moment-là, moi, j'ai Yves à côté de moi. On est dans un moment, le long d'une... assis sur une restanque, comme ça, si tu veux. Et il se met à partir dans cette espèce de grande tirade. Si vous voulez faire la révolution ici, vous verrez, votre derrière sera tout rouge. Bande de cons jusqu'au sang. Tu vois, c'est le discours à la révolution. Ben, ce discours à la révolution, c'est le discours de Ligny en 68. Qui disait, non, mais... Il a vu arriver tout l'été 68, il a vu arriver tous ceux qui débarquaient et qui venaient à Granièse dans ces coins-là. Lui, il a foutu le camp, il est allé en face en disant, je ne suis pas de ça. Je veux dire, je crois que c'est quelque chose de plus essentiel, si tu veux. C'était appuyé sur quelque chose de plus essentiel, qu'il faut aller plutôt chercher du côté de...
ou effectivement de l'esthétique, ou de la poésie, ou de la philosophie. Il était sur ça.
Et en même temps, son geste est extrêmement quand même politique, puisque il fait effectivement le choix de s'éloigner des institutions. Il fait le choix parce qu'il est passé par là quand même, Deligny. Donc sa position dans les Cévennes, elle est.
Choix, si tu veux, à la
mais
fois
je que ça, contre le. Sa position politique aussi, elle se situe à chemin de fait à cette époque-là, et d'un point de vue aussi contemporain, cette notion d'image autiste qui commence. C'est à partir de ce film-là, quand il parle de l'image autiste, il en parle. C'est dans la filiation de cette expérience avec ce film.
Oui. Je pense, oui, c'est avec l'expérience avec ce film et avec le travail qui se fait après sur. Avec la présence des autistes à côté de lui, si tu veux. Mais
toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette notion
d'image ? Moi, je pense que, en tous les cas, l'aventure, l'itinéraire politique de Deligny, il commence à la Libération. Enfin, il a commencé avant, d'abord, mais on peut le repérer à partir de la Libération, très très proche du Parti communiste, très proche de gens comme le grand psychiatre Henri Vallon. Et quelque part, je pense, il n'a jamais lâché ça. Je veux dire que il est une des raisons pour lesquelles à un moment il me fait confiance, je l'ai compris après, c'est parce qu'à l'époque, moi j'ai eu mon itinéraire ensuite, mais à l'époque j'étais justement en 68 quelqu'un qui disait qu'il était encore communiste. Ils m'ont regardé comme ah bon, tu as 30 ans et tu te viens de 68, et t'es encore. Il y avait quelque chose de. Il résistait à quelque chose, si tu veux, qu'il sentait ne pas aider. Au développement de sa pensée. Et son travail avec les enfants autistes, à l'époque, il y a eu aussi des histoires de réseaux qui se sont retrouvés en difficulté, qui ont des lieux de vie, il y a eu toute une série de choses comme ça. Mais il ne s'est jamais identifié à ça. Il n'a jamais été un lieu de vie au sens. Son côté, son anarchisme n'est pas du tout. C'est un anarchisme marxiste, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est les philosophes qui ont le mieux parlé de lui, que ce soit effectivement ce que j'ai cité tout à l'heure. Et Jo Mananti est allée beaucoup plus loin encore, elle, dans la relation. Elle a mis une relation, et Jean-Houry l'a fait aussi maintenant, avec des la phénoménologie, avec toute l'école qui suit Merleau-Ponty, et en particulier Maldinet, si tu veux, qui est celui qui a écrit les choses, à mon avis, les plus proches de cette histoire de l'image autiste, si tu veux, je veux dire, de la question de l'image. Quoi.
Et à cette époque-là, il y avait le film de Jean-Daniel Paulet, Méditerranée, non ?
Oui, mais il était passé assez inaperçu. Ouais, quoi.
Tu l'avais pas vu,
oui. Si, moi je l'ai vu, oui. Mmh. Mais je veux dire, c'était pas ça qui existait. Hein.
Mais c'est aussi un ovni.
Et on a quand même vécu à cette époque-là. Je veux dire, moi, à ce moment-là, je rencontre Chris Marker. Et pour moi, Chris Marker était un monument, si tu veux. Je veux dire, dans mon panthéon cinématographique. Et je veux dire, je venais de vivre son élimination par la Nouvelle Vague. Je veux dire que la Nouvelle Vague, elle a complètement, il y a Godard qui a son itinéraire à lui et qui. Et à lui-même un continent, si tu veux, mais tout le reste, ce qui s'est passé en 62, est venu complètement comme marcher sur des plates-bandes, plein de choses qui étaient en germe, qui avaient du mal, et qui ont fait que quelque part, il y a des cinémas qui se sont détruits, si tu veux, par rapport à ça, quoi. Et 68, par rapport à un certain nombre d'idées, justement, de ça, à mon avis, on quelque part aussi gaspillé beaucoup de force autour de ça.
Alors tu termines le film donc et tu comment se passe la première projection ?
Alors là, en fait, la projection, il y a une première projection qui est organisée par Chris Marker à Paris et qui est assez folle. Mais moi là, je suis complètement paniqué et je n'ai que Chris et Marker est à côté de moi et bon, la seule chose qui compte, c'est que je sente savoir si comment ils réagissaient. Donc là, bon, je suis sorti assez confiant de cette projection là. Les gens, j'ai plus du tout le souvenir de comment il avait été pris à ce moment-là. La vraie première projection, c'est donc Chris Marker qui pratiquement propose avec insistance à Louis Marcorel de prendre le film pour la semaine de la critique à Cannes en mai, en 71. Et donc il y a la projection à Cannes à la semaine de la critique et pratiquement à la fin de la séance, la salle est vide, quoi. Et donc, là, ça a été la
première. Je crois qu'il reste, une personne, c'est Alain Cavalier.
C'est Alain Cavalier qui est resté au fond de la salle. On se l'est dit de plusieurs fois dans notre histoire. Après, on s'est croisés et il s'en rappelle encore. Et puis, et une journaliste du Provençal, parce qu'elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir demander.
Alors, quelle conscience tu as de ce film, toi, à ce moment-là? Tu disais que finalement, les choses les plus intéressantes qu'on ait dit viennent de l'extérieur, viennent d'autres.
Moi, j'ai l'impression, je commence à me demander, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Tu vois, je veux dire, moi, il me paraît très simple, les choses vont de soi, et je vois, je commence à sentir cette espèce d'incompréhension ou au contraire de passion, parce qu'il y a à la fois la projection à Cannes avec quand même la présence de Cavalier, mais bon, j'ai pas donné aussi plus d'importance que ça à ce moment-là, mais le film est repris à Paris par la Semaine de la Critique à ce moment-là, et là il y a une salle qui voit le film, mais visiblement c'est une salle qui savait ce qu'elle venait voir, quoi, tu vois. Et là il y a eu un débat absolument énorme avec au premier rang, il y avait un petit monsieur qui était là comme ça, qui faisait taire la salle, qui me posait des questions, qui me disait, mais pourquoi vous avez mixé à ce moment-là? J'ai l'impression qu'il avait fait le film avec moi, si tu veux. Et en fait, c'était Rivette. Et moi, je ne le connaissais pas. Et à partir de là, le film a été, Rivette a décidé, il a convoqué la rédaction des Cahiers du Cinéma en disant, vous venez voir le film. On a organisé une projection uniquement pour Rivette et ses amis. Et là, d'un coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont emparés de l'affaire, si tu veux. Et à partir de là, effectivement, il y a tout un travail qui s'est mis en route. Et je pense qu'aussi bien Rivette a écrit des textes qui, moi, m'ont secoué au début. Et puis, je pense que quelqu'un comme Jean-Louis Comolli est sans doute celui qui a écrit les choses les plus pertinentes dessus à ce moment-là. Et puis, ça a suivi cette histoire. Sauf que le film avait son aventure militante qui était surtout portée à Paris, autour de Paris, et en particulier par un garçon qui avait une histoire personnelle avec sa sœur qui était handicapée, qui est donc Renaud Victor, qui va être celui qui va, en gros, me remplacer après, quoi.
Alors,
bon, voilà, je sais pas.
Ouais, alors, malheureusement, il faudrait qu'on ait 2 heures, effectivement, pour continuer,
Jean-Claude.
Mais, Jean-Pierre, le problème, c'est que, voilà, il va être bientôt 10 heures, donc, on a encore quoi, 2 minutes?
Ouais, même pas.
Une question,
même pas.
Comment, alors, après ce film?
Non, il n'y a plus de questions, là, 2 minutes, si.
Ouais. Comment ça t'a habité? Est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres films? Ou qu'est-ce que tu en as fait après?
Pour aller vite, je dirais ça m'a envahi. Je pense qu'effectivement, l'itinéraire que j'ai eu par la suite est complètement déterminé par cet envahissement. Je pense que ça a été très difficile de pouvoir faire d'autres films à partir de là, ou d'autres aventures. Mais en même temps, ça m'a, je veux dire que je suis construit. C'est un des éléments de ma construction, quoi, si tu veux.
Voilà. Ça va bientôt couper.
Je peux le mettre en fondu aussi.
Ouais, je peux le mettre en fondu juste pour dire, il faudra qu'on en refasse une, on en fera une. Il y a plein de choses à lire sur Deligny, vraiment plein, c'est à se plonger, se noyer dedans. Le film Le Moindre Geste sera projeté le 22 janvier à 19h à Ciné Dada.
Boulevard Dada
avec Jean-Pierre Daniel. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le premier lundi de février avec l'histoire de Marc Cialhomme, de son film Lettre à prison et d'autres choses. Bonne fin de soirée.
Lundi 6 février.
Voilà, lundi 6 février.
Merci Jean-Pierre Daniel.
À bientôt.
Merci à vous.
On se quitte avec notre ami Yves.
Oui, bonne année.
C'est comme l'enfer. L'enfer, c'est comme les pauvres. L'enfer, c'est comme les pauvres. Mais l'enfer, on dit que l'asile. L'asile, c'est comme les communistes. L'asile, c'est comme les morts. Là, les années hier, c'est comme ça. Mais, en général, monsieur les morts, j'ai au téléphone encore une fois, il y a 50 millions d'anciens francs. Prenez un petit pistolet, creusez votre trou, et mettez votre dynamite. Ça, par exemple, alors, les morts, ça ne pleure pas. Mais une croix, ça pleure. Plus, monsieur les morts, monstre. C'est mort, ça pleure. Et quand ça rêve, ça téléphone. Alors, égal, plus c'est mort, plus mon général Franco. Mon général, je crois que Dieu vous a dit, allez à l'enfer. Oh! Allons les morts. Les morts, vous entendez bien. Mais les mots m'entendent. Oh, ces pauvres morts, qu'est-ce qu'ils sont curieux. Mais voilà, quand j'ai dit ça à mon général, là-haut, dans son trou, je lui ai dit, voilà, je prends un pot émetteur, je transmets de l'eau, tu mets ça dans ton trou, tu vas me dire exactement où est le trésor. Je lui ai dit, il n'y a pas de trésor ici. Je dis, moi, j'en ai vu un dans ce trou-là. Alors, monsieur mon général, si vous me téléphonez alors que je vous parle, le trou, c'est un petit machin, on met machin. La photographie, je t'avais mis une lettre à l'heure que je t'ai dit. Le mort, ça dit comment, voilà les morts, les ventes, les morts, ça rêve. Mais quand ça pleurniche, et quand ça rêve, les morts, ça se bénit. Et pourquoi donc, messieurs dames? Ah, messieurs dames, je vous interprétez, gens d'asile. L'asile, c'est comme les pauvres. L'asile, c'est comme ci, c'est comme ça. L'asile, ça vous dit une idée. Mais, pourquoi l'asile arrivait? Parce que, au moment, j'ai entendu un qui m'a dit, le Seigneur ne marche pas sur ses pieds. Mais quand le pape viendra, on va vous examiner. On ne va pas dire que c'est l'enfer. Mais je crois que 3 fois 3, ça fait 10, et 10 millions d'anciens francs, ça gagnera un tiercé. Mais, je me demande, messieurs dames, pourquoi ça rêve-t-on? Oh, ça y est, c'est bon, table. Il y a le feu à la maison. Allez, appelez les pompiers. Je dis allô, je dis pas de mythe. La mémoire qui m'est arrivée chez vous est épouvantable. Quasiment restée, bande d'idiots. L'asile, c'est épouvantable.